Bonjour Raymond Richard au micro, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Il y a autour de ce micro Jean-Pierre Dubreuil, Chantal Matelet, Alain Geneste, Catherine Bianchi, Jean Botvinnik, et puis moi Raymond Richard, et Guy est à la technique. Nous sommes réunis entre religions différentes, et dans le calendrier il y a la Pâque chrétienne, la Pâque juive, le Ramadan. Finalement, il y a une espèce de concentration de toutes ces célébrations fondamentales. Alors, qu'en est-il ? Bien, Jean, vous aviez prévu de nous rappeler les fondements de la Pâque juive.
La Pâque juive au singulier, qui n'est pas les Pâques des chrétiens, j'insiste, est la formation du peuple juif, descendant d'Abraham et de ses enfants, Abraham, Isaac et Jacob, qui a été dénommé Israël, et le peuple juif s'appelle les enfants d'Israël. Ses descendants ont été esclaves en Égypte jusqu'à un certain moment, et miraculeusement, Dieu s'est rappelé de sa promesse envers les patriarches et a fait sortir le peuple juif de l'esclavage, lui a fait traverser la mer Rouge, et lui a donné sa loi au mont Sinaï. La Pâque juive rappelle donc cet épisode qui est fêté tous les ans au mois de Hadar et sous la forme d'une cérémonie familiale le soir de la Pâque, où on va rappeler toute cette histoire en mangeant le pain asim, le pain de misère, qu'ont mangé nos ancêtres en sortant d'esclavage, parce que, d'après la Torah, ils n'avaient pas eu le temps de faire lever le pain. La Pâque est donc la formation du peuple juif et la réception de la loi que les Juifs vont suivre.
Les 10 paroles, donc, cette loi.
Et entre autres, voilà, les 10 paroles, qui, heureusement pour finalement notre monde entier, ont résonné lors de la Révolution française par l'intermédiaire des protestants, sous forme de la Déclaration des droits de l'homme, et qui, nous le reconnaissons tout à fait, nous les Juifs, grâce à la chrétienté, qui a répandu dans le monde les 10 paroles, qui n'étaient évidemment ni connues ni observées auparavant.
Chantal, tu as peut-être quelque chose à dire, parce que de fait, il y a une parenté entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, puisque même dans la célébration de la Pâque chrétienne, il y a l'utilisation des textes de la Bible, des textes les plus anciens.
Dans la célébration de la veillée pascale, de la nuit de Pâques, les premières lectures font référence au passage de la mer et à la libération du peuple. Et d'ailleurs, en passant aux enfants les paroles de vie, on appelle les paroles de vie. Je dis aux enfants qu'elles sont précédées d'une parole importante, et ça rejoint ce que vous disiez, Monsieur Botvinnik, c'est à un peuple libre que Dieu a donné des paroles. C'est pas un peuple esclave. Ça veut dire qu'ils sont libres de répondre à ces paroles. Et ça, je trouve ça important pour les enfants, parce que tout ce qu'on nous impose comme loi, on est libre d'y répondre ou pas. Par contre, pour la célébration, après, ça, ce qui est fêté, qui suit la libération de l'esclavage, c'est le fait que Jésus est passé de la mort à la vie. Il a traversé la mort et il est revenu à la vie, ce qu'on appelle la résurrection.
Et donc la Pâque chrétienne, c'est aussi à la fois ce lien entre le don des paroles de vie, mais en même temps, au terme, la résurrection de Jésus. Et pour les chrétiens, c'est Jésus qui fait le passage vers son Père, vers Dieu le Père.
Et dans certaines représentations, on voit comment le Christ est descendu vers le monde des morts pour nous faire sortir vers la vie. Et il est le premier qui nous a fait sortir. C'est ça qui est important dans la résurrection. Je pense que dans le « Je crois en Dieu », on le dit, il est descendu. Il est descendu aux enfers, c'est pas en enfer, dans la mort, et il est remonté. Et en même temps, il nous propose une remontée vers la résurrection, vers la vie.
Catherine, pour les protestants, on retrouve les mêmes éléments.
Exactement la même chose.
Je voudrais vous signaler un calendrier. En février, une très belle collaboration entre les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et l'islam, et la République laïque, s'est faite pour la 8e année consécutive à Grenoble. La municipalité et le conseil interreligieux de Grenoble éditent un calendrier de 17 pages avec l'inscription des différentes fêtes civiles et religieuses dedans. Le calendrier est distribué dans les associations, les écoles, les librairies, à l'office de tourisme, en quelque sorte partout. L'espoir des promoteurs est que ce calendrier serve d'outil pour le vivre ensemble. Et je me demandais à quand des calendriers des postes, des pompiers, etc., avec d'autres indications que les fêtes et saints chrétiens et les fêtes civiles. Avis aux amateurs.
Il y a aussi les fêtes publiques, par exemple.
Et à propos du calendrier, il faut évidemment un point de départ. C'est un rabbin du IIe siècle qui a vécu à Séphoris, donc en Palestine, entre les années 100 et 150, qui a calculé le point de départ. Et je pense que ce moment de calcul est dû justement au christianisme naissant, qui avait déjà cherché la date de début du christianisme avec Jésus. Et donc il est parti du sixième jour de la création, c'est-à-dire le jour de la création de l'homme, et puis il a additionné les durées de vie des personnages de la Torah. Il est arrivé au chiffre à l'époque de 3761 ans avant notre ère. Actuellement, on en est à 5781 cette année. L'année juive, elle est basée sur les cycles de la Lune, donc des mois de 29 et 30 jours, mais également sur le cycle solaire, pour ne pas décaler les fêtes qui sont basées sur l'agriculture. Un petit peu comme le calendrier musulman, qui lui n'est que lunaire, et c'est pour ça que les fêtes musulmanes se décalent tout au long de l'année. L'année lunaire compte effectivement 354 jours, alors que la solaire en compte 365. Alors chez les juifs, pour la rattraper l'année solaire, on rajoute un 13e mois tous les 2 à 3 ans sur un cycle de 19 ans. Et donc naturellement, on peut se retrouver toujours en phase avec tous les 19 ans, même le même jour que les Pâques chrétiennes.
C'est pour ça que la Pâque juive et la Pâque chrétienne sont toujours au printemps, par exemple.
Voilà, ça a lieu au printemps, parce que, évidemment, avant le concile de Nicée, les Pâques chrétiennes étaient calculées en fonction de la Pâque juive, ce qui a été un peu intolérable à l'époque. Et donc, les Pâques chrétiennes ne sont plus calculées en fonction de la Pâque juive, mais en fonction de l'équinoxe.
Voilà, le cycle lunaire, oui. Et voilà. Alors, nous avons aussi évoqué quelques points autour de l'actualité. Dans l'actualité, c'est pour les chrétiens le voyage du pape en Irak. C'est être allé au milieu des lieux qui sont les plus en crise et au milieu d'un pays en ruine. Ça, c'est véritablement très symbolique. Et très symbolique de son engagement pour la création, pour l'homme et contre la guerre. Voilà. Peut-on dire? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres points à aborder là-dessus.
Non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde a apprécié ce voyage et pense que c'est un signe de paix, hein, un effort diplomatique d'une certaine manière, hein, qu'on ne peut que saluer. Hein.
Dans un article de La Croix, il disait que le pape s'était posé en politique aussi. En politique au sens fort du terme. Hein. Ça touche l'humanité dans son entier. Je trouve ça intéressant.
Il a quand même apporté un soutien aux chrétiens d'Irak. C'est quand même un gros point, je veux dire, marquer sa présence. Je ne connais pas tous les voyages faits par les papes, mais dans un pays en guerre et en difficulté, c'est un sacré message de soutien, je trouve.
Pour le pays et pour la paix, mais c'est aussi un message pour les racines chrétiennes, puisque en fait c'est aussi dans ce pays où on a des langues qui sont les plus proches de l'araméen, des langues sémitiques anciennes, des langues du pays de Jésus, comme dit une Drouesse qui est d'origine irakienne et qui était très fière de ce voyage du pape, qui en était très heureuse, alors qu'ici elle vit comme exilée.
J'ai noté quelques mots de la déclaration, enfin de ce qu'il a pu écrire dans son livre récemment, le pape François, où effectivement, on pourrait penser qu'il est effectivement très politique, mais je pense qu'il est simplement humain. Et quelques lignes de ce qu'il a écrit. Il n'est plus supportable que nous continuions à fabriquer et à faire du trafic d'armes en dépensant des capitaux énormes qui devraient être utilisés pour soigner des gens, sauver des vies. Il n'est plus possible de prétendre qu'un cercle vicieux dramatique entre la violence armée, la pauvreté et l'exploitation insensée et indifférente de l'environnement ne s'est pas installé. C'est un cycle qui empêche la réconciliation, alimente les violations des droits de l'homme et entrave le développement durable. Voilà quelques-unes de ces paroles très 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 fortes qui nous concernent dans la fraternité et puis dans l'écologie.
La fraternité, je trouve qu'elle s'est fait ressentir avec ce confinement. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de fraternité envers ses voisins, envers ses proches. J'espère que ça va perdurer, cet esprit de fraternité. Parce que si jamais, une fois que tout le monde est vacciné et reprend son quotidien, pas comme auparavant, parce que tout sera différent maintenant, mais que cette fraternité perdurera. Puis on parlait d'écologie. Moi, je trouve que beaucoup de gens, en étant confinés, se sont remis en question et ont appris déjà à manger sainement. Beaucoup de familles sont parties habiter au vert, etc. Alors, c'est bien pour la famille, mais est-ce qu'ils vont s'arrêter à leur propre univers sans s'occuper des voisins? C'est là que ça me gêne un peu. C'est là que ça me gêne.
Nul n'est prophète.
Non, non. Mais je pense qu'il y a une sensibilisation certaine de ce côté-là.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
On peut penser nous que la fraternité, c'est pas simplement la fraternité de Fratelli Tutti, le texte de ce pape, qui invite à être frère, pas simplement entre chrétiens, puisqu'effectivement, un des fondements du christianisme, c'est cette fraternité entre les hommes et les femmes, quoique celle-ci soit un peu oubliée par l'Église, mais enfin bon, passons. C'est cette fraternité humaine, elle rejoint aussi, pour nous qui sommes en France, la devise républicaine qui est au fronton de toutes nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Et on peut espérer là peut-être quelques avancées pour lesquelles il y a à la fois des éléments religieux, cette contribution du pape Fratelli Tutti par exemple, de ce texte qui l'adresse aux chrétiens mais aussi à l'ensemble de l'humanité. Et on peut espérer aussi que dans ce texte, il y a des points qui dénoncent un fonctionnement économique qui écrase l'homme, qui place l'argent en, disons, qui en fait l'idole. Et si les chrétiens et les hommes s'emparent de ce texte, il devrait y avoir des changements, non seulement sur le plan de l'environnement, ça c'est dans un précédent texte, mais la sauvegarde de la création, ça veut dire la sauvegarde de l'homme sur Terre, et il faut lui donner des moyens de vivre. Et donc là, il me semble que la condamnation par le pape d'un système économique qui privilégie uniquement l'argent, le faire économique, en oubliant que l'économie, cela veut dire le soin pris à la maison et à la maison de chacun, et le pape défend un toit du travail pour chacun. Il me semble que c'est quelque chose qui est une part de ce que les religions peuvent apporter à la société, mais inversement, il faut que la société entende aussi ce message et le traduise en règles. Et là, il y a des choses à dire de la part de Jean-Pierre, par exemple, ou Alain. Tout à l'heure, tu évoquais cela quand on préparait l'émission.
Oui, bien sûr. Les règles sont nécessaires. Il y a l'intérêt privé qui fait tourner l'économie, et puis il y a aussi l'intérêt public. Mais il y a parfois conflit. L'intérêt public doit penser aussi à l'avenir de nos enfants, etc., l'avenir de la planète. Or là, actuellement, on est mal parti. On est plus sur une pente, on est plus vers une destruction, perte de la biodiversité, etc. Donc il faut absolument rectifier le tir. Le problème, c'est que les progrès humains sont moins rapides que les progrès économiques qui vont très très vite à faire des dégâts. Donc il est absolument nécessaire de prendre en compte l'intérêt général. Hein, c'est ce qu'on fait avec l'eau. Par exemple, là, il va y avoir des gros problèmes avec l'eau. L'eau va devenir rare. Et il faut partager l'eau. Il ne faut pas que quelqu'un s'approprie l'eau, puisque à ce moment-là, ça devient une menace pour le reste du monde. Et puis, c'est la même chose pour la culture, etc. Les arbres. Actuellement, aujourd'hui, c'est la journée de l'arbre, je crois, il me semble. Hein ? Eh bien, on a besoin d'arbres. Les arbres apportent de l'ombre, mais ils permettent aussi de nourrir les oiseaux, etc. Maintenir l'eau sur les terrains, etc. Et il faut qu'on arrive à modifier. Par exemple, je vois la plaine de Beauce, qui est magnifique, enfin, c'est énorme. Mais il serait nécessaire maintenant de pouvoir mettre des arbres pour protéger aussi la nappe phréatique qui est en dessous, puisque la nappe phréatique, elle souffre actuellement. Moi, je le sais particulièrement, puisque j'habite à côté de l'usine de dénitrification, où on pompe toute l'eau de la nappe souterraine, et puis on essaye d'en enlever les nitrates. Vous voyez ? Donc on paye pour enlever des nitrates, etc., pour avoir une eau améliorée. Mais la nappe phréatique, elle se détruit de plus en plus actuellement. Donc il ne faut pas continuer dans ce sens-là. Alors évidemment, il faut bien que les agriculteurs puissent gagner leur vie. En plus, on a besoin de blé. Il faut trouver des équilibres. C'est absolument indispensable. Voilà ce que je voulais vous dire.
Retrouver des limites, donc.
Je pense que par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui me... Je vois beaucoup de jeunes, là, qui sont en train de bouger par rapport à tout ça et qui veulent... Mais je pense qu'il serait temps, au niveau de l'éducation, de vraiment éduquer à l'écologie, à la... vraiment, réellement, hein, et ce ne soit pas seulement un cours, entre guillemets, mais qu'il y ait une prise en compte globale à l'intérieur des lieux où on se rassemble, une éducation à l'écologie, à la vie en commun, à la... des choses comme ça. Parce que ça me paraît très, très important. C'est comme le civisme. C'est pas parce qu'on fait une heure d'éducation civique qu'on devient un bon citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen dans un collège ou dans un lycée au jour le jour ? Et je pense que ça, ce serait important de le reprendre. Non pas que ça n'a pas été fait, mais vraiment de le reprendre. Parce que moi, qui ai des petits-enfants, je m'aperçois qu'ils ont plein d'idéaux. Ils veulent que la Terre soit belle et tout. Mais eux, ils ne se sentent pas concernés vraiment à leur niveau. Moi, j'ai dit à ma petite-fille, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que ce que tu me reproches à moi d'avoir dégradé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour... etc. Je pense qu'il y a un problème d'éducation à revoir profondément.
Surtout, comment dirais-je, au niveau de la pollution, en cette époque où on est tous masqués, on achète des trucs jetables, ça me navre de trouver des masques jetés dans les caniveaux au bord de route. Dans mon village, il y a des enfants qui, le week-end, font le tour des rues du village et ramassent à la pince tous les masques qui ont été jetés par des sans-gêne, qui se sont protégés, mais qui s'en fichent du voisin. Et ça me grise. Voilà.
Pour rebondir sur ce petit chapitre de l'écologie, et toujours en rapport avec la sortie d'Égypte, finalement, à l'arrivée en terre promise, la terre a été divisée selon les tribus et les familles, sans oublier l'héritage qui était aussi pour les femmes. Et les lois de l'agriculture demandant la jachère tous les 7 ans pour laisser la terre se régénérer, de ne pas mélanger les espèces et socialement de laisser un coin de champ libre pour pratiquer la glanure pour les pauvres et aussi l'annulation des dettes. L'annulation des dettes, on en parle en ce moment, avec ces dettes et les économies qui se divisent entre eux. Et tous les 50 ans, il y avait un retour des propriétés, je ne sais pas du tout si ça s'est fait, hein, un retour des propriétés aux descendants des propriétaires de la division à l'arrivée en terre de Canaan. La pauvreté pour les Juifs n'est pas une malédiction et les communautés doivent les aider par la charité, mais surtout en leur prêtant de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins eux-mêmes, comme ces femmes du Burundi à qui les riches possédants sont invités à louer leurs terres. Donc, de retrouver un petit peu la fraternité, mais ça ne prend pas le chemin, comme le raconte le canard enchaîné de la mi-mars, qui dit qu'aux États-Unis, Bill Gates est le plus riche propriétaire privé de terrain, Et donc, comme patron, il va pouvoir imposer ce qu'il veut désirer. Et en France, et je lis dans le canard, le tiers des agriculteurs va partir à la retraite dans les 6 prochaines années. Les syndicats redoutent que ces terres sans repreneur ne soient la proie de la financiarisation à outrance qui a commencé avec l'appétit de nos milliardaires locaux.
Et on retrouve la question du bien commun.
Le bien commun. Voilà, la division finalement. Et puis la pauvreté qui peut être combattue par le prêt aux gens pour se fabriquer leur propre vie. Ce qui n'est pas la charité.
Moi, je suis frappé, agréablement frappé, par ce balancement que nous avons dans nos discussions entre des réflexions qui sont d'ordre théologique et des réflexions sur la réalité de la vie et l'importance noblement politique d'un engagement. J'y vois actuellement peut-être une évolution. Je n'ai pas toujours senti cette volonté de s'impliquer de la part de l'Église catholique, qui est ma religion que je connais le mieux, le moins mal. Je trouve que ces rencontres que nous avons et qui, je pense, sont en fin de compte assez nombreuses. Les gens se parlent de plus en plus, et il y aura toujours ce que moi je pense être des forces mauvaises, celles qui vont vers l'égoïsme, et sur le plan économique, la recherche d'un profit justifié par des réflexions à caractère scientifique, dit-on, je trouve qu'il y a des forces de résistance qui vont dans le bon sens. Voilà.
Donc peut-être, effectivement, c'est le rôle de nos églises de rappeler cette exigence de fraternité. Ce qui me paraissait intéressant dans votre réflexion, c'était non pas d'une charité qui distribue simplement, mais une charité qui permet à chacun de prendre sa part à la construction des choses. Et ça me paraît être très important, parce que souvent, dans les structures caritatives, on donne, et en fait, les gens n'ont pas besoin... Enfin, ils ont besoin de dons immédiatement. Celui-ci qui a faim, il a besoin de manger. Mais au-delà du don, il y a peut-être la création de ces structures de justice. Et on oppose quelquefois justice et charité, mais dans les textes des papes, y compris les plus... ceux qui, pas simplement le pape François aujourd'hui, mais Benoît XVI avant lui, mais d'autres, la recherche de la justice, c'était justement... le béaba, la première pierre de la charité. Ce qu'on a peut-être oublié quelquefois, parce que c'est plus facile de donner quelque chose à quelqu'un et puis ça suffit, alors que permettre à quelqu'un d'être lui-même acteur de son développement, de sa reconstruction, de sa prise en charge, ce que tout à l'heure vous évoquiez dans la religion juive, je crois que c'est quelque chose dont on prend de plus en plus conscience. Avec bonheur, j'espère.
Oui, moi, un exemple, c'est le travail que fait CCFD, Terre Solidaire. Personnellement, moi, je ne suis pas chrétien, mais j'adhère à cette association car elle applique exactement les propos que tu viens de tenir, à savoir non pas simplement donner, comme ça, mais donner aux gens qui en ont besoin les aides suffisantes pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main leur destin. Et donc, trouver une vraie dignité.
Ne donne pas un poisson à ton voisin, donne-lui la canne à pêche qui lui permettra de pêcher ce poisson.
Mais à condition qu'il y ait des poissons. Parce que moi, il y a aussi une grosse menace, c'est la menace du gigantisme. Actuellement, on a sorti, par exemple, je crois que c'est à Saint-Nazaire, il n'y a pas très longtemps, un navire de 80 mètres qui, dans une seule journée, peut peut pêcher autant de poissons que tous les pêcheurs de la côte bretonne. Donc ça fait peur, on est en train de détruire la ressource. Il faut gérer ces ressources, c'est hyper important. Je sais que dans le temps, dans les chasses, les gens faisaient attention, ils comptaient le gibier, ils s'arrangeaient pour le nourrir l'hiver, faire qu'il reste sur place, qu'il se reproduise, et les prélèvements étaient comptés, le gibier était surveillé par rapport aux maladies, etc. De manière à ce qu'on puisse développer la ressource. Or là, actuellement, on est en train de piller les ressources. Il y a des choses qui m'inquiètent un peu. Par exemple, je pense à la ferme des 1000 vaches. Est-ce qu'on a besoin de fermes de 1000 vaches comme ça, du lait à en produire comme ça, à ne pas savoir quoi
c'est
en faire?
C'est vrai qu'il vaut mieux une ferme de 100 vaches.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire vivre plusieurs fermes, plusieurs familles, plutôt qu'un seul qui monopolise, qui rafle toute la mise? Voilà un petit peu ce qui m'inquiète un peu.
Votre réflexion, elle est extraordinairement concordante avec la vision d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a, que j'ai trouvé ? Il a vu dans sa vision un océan pollué dont la faune et la flore étaient au bord de la mort, lui fut montré. Un filet d'eau va jaillir du temple, aller jusqu'à la mer, et des eaux polluées sont assainies, et les poissons et la vie marine retrouvent la santé. En quelque sorte, le retour à la vision paradisiaque. Mais finalement, ce que nous vivons actuellement a déjà été imaginé il y a des centaines et des centaines d'années avec des solutions d'entraide. Rien de ce que nous vivons finalement n'est nouveau. Je ne suis pas théologique, mais nos réunions me permettent de creuser, de chercher un petit peu pour finalement aider à la bonne continuation et peut-être faire que nous acceptions des nouvelles limitations justement à nos prétentions humaines.
Comme je le disais à l'intérieur, sur nos frontons de mairie qui était sur l'église, liberté pour chacun, fraternité, égalité, la liberté s'arrête pour ne pas nuire à son voisin et la fraternité pour soutenir son voisin. Je veux dire qu'on est en plein dedans là, c'est là qu'il faut, et je pense qu'il faut les ressasser, les retravailler auprès de chacun pour on n'arrivera pas tout seul à s'en sortir, il faut s'entraider entre nous en respectant chacun.
Je vais vous dire une anecdote. Ma fille qui est professeure en Angleterre, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas d'école. Et elle souffre beaucoup, elle souffrait beaucoup parce qu'être dans une pièce avec un écran, etc. Un écran où on n'a pas le droit de voir le visage des enfants en Angleterre. Donc elle dit c'est terrible. Et elle a retrouvé les gosses là. Et il y a un gosse qui lui a dit: Madame, ce qui est super, c'est pas d'apprendre, c'est d'être ensemble et de s'aider.
Voilà, on va confier au.
Et c'est génial parce que ça veut dire que ce gosse-là, ce qui lui manquait, c'est de l'aide et de la relation. Il n'a pas dit « j'apprends rien », non, c'est de l'aide et de la relation. C'est riche. Si on entendait ça, on se dirait on a besoin les uns des autres pour vivre, pour apprendre, pour construire, pour...
Et merci Chantal d'avoir donné ce mot de la fin et ce mot d'enfant qui dit ce qui compte c'est la relation et de s'aider. Voilà, et bien c'est ce que nous vous souhaitons et c'est ce qui est souvent mis en exergue pendant cette période pour les chrétiens le carême, pour d'autres en tout cas des temps autour de leurs fêtes religieuses et pour tous c'est l'idée que les uns et les autres avons besoin les uns des autres. Là-dessus, eh bien, nous vous retrouverons avec plaisir dans un mois. Et puis nous vous disons bonne semaine à tous, au revoir.
Merci. Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, aimer, surtout s'aimer.
Maintenant.